BFM, midi 15h, le 12-15, Edwige Chevrillon.
J'irai jusqu'au bout, c'est ce qu'a dit Hillary Clinton, la femme qui ne renonce jamais après sa victoire, notamment dans l'Iowa et le Texas. François Bujon-Létang, bonjour.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Vous avez été donc ambassadeur de France à Washington. Vous connaissez très bien les États-Unis, puis vous connaissez certains des candidats. Vous êtes un peu surpris du fait que Barack Obama se voit lui coupé dans son élan après 11 victoires successives?
Surpris, non, parce qu'il n'a jamais été sûr d'emporter ni la primaire du Texas, ni celle de l'Ohio. Vous savez que les sondages étaient extrêmement serrés dans ces deux États et que par ailleurs, les sondages américains en matière d'élections primaires sont toujours sujets à caution. Mais il était loin de crier victoire. Il espérait, bien entendu, et l'enjeu était de taille pour elle et pour lui.
Oui.
Pour elle,
parce presque que... encore plus pour elle. Hein.
Ah, oui, bien sûr. Pour elle, c'était vraiment qui tout double. Si elle ne gagnait ni le Texas ni l'Ohio, sa campagne était perdue, elle était compromise définitivement et on avait même été jusqu'à dire qu'elle pourrait jeter l'éponge. Ce dont, pour ma part, je doutais parce que ce n'est pas son genre.
Et oui, il aurait c'est fallu ça qui renonce jamais.
Ce n'est pas du tout son genre. Elle ne renonce jamais. Et il aurait vraiment fallu que la victoire de Barack Obama fût écrasante pour qu'elle accepte de jeter l'éponge. Mais en réalité, c'était crucial pour elle parce que si elle ne l'emportait pas, la campagne était compromise. En même temps, pour lui, il y avait un enjeu puisque s'il gagnait les deux, au fond, il avait presque parti gagner ce soir. On est très loin de ce résultat.
Ouais, c'est étonnant comme ça bascule. Hein.
Ça bascule très vite. Encore une fois, il s'agissait de deux États dans lesquels les sondages étaient extrêmement serrés. Et au Texas, on a toujours donné une légère avance à Hillary Clinton. À cause, comme vous le savez très bien, de l'importance du vote hispanique qui est largement acquis aux Clinton. Mais ces dernières semaines, on avait eu le sentiment que Obama avait réussi à faire quelques percées dans le vote hispanique. Ça se confirme puisque d'après les toutes dernières dépêches, au Texas, Hillary Clinton ne l'aurait emporté que de 51% contre 49%, ce qui est extrêmement étroit. Pour que la victoire soit vraiment une victoire très importante en termes de nombre de délégués, il aurait fallu qu'elle ait 10% d'avance.
Alors,
elle ne les a pas.
On sait, François Bujon-Létang, c'est très très compliqué. Vous êtes venu ensuite nous l'expliquer il y a quelques jours du côté démocrate. Parce qu'il y a les délégués et puis il y a les super délégués qui, eux, votent. Mais en quoi peuvent-ils faire basculer d'un côté ou de l'autre, du côté démocrate, je m'entends?
Oui, il y a en réalité trois choses d'ailleurs, si vous voulez qu'on les complique
encore davantage. Oui, parce qu'on veut encore compliquer,
oui. Oui, il y a les délégués qui ont un mandat impératif, c'est-à-dire que eux se déclarent pour Barack Obama ou pour Hillary Clinton et ils sont ensuite tenus de respecter à la convention le choix qu'ils ont exprimé avant l'élection. Donc ça, c'est un vote lié. Les super-délégués, par contre, n'ont pas de vote lié. Ils peuvent se déclarer en faveur de tel ou tel candidat, mais ils peuvent aussi réserver leur vote pour la convention et élargir encore, alourdir plutôt le suspense.
Ouais.
Et puis il y a une troisième catégorie. Si on est vraiment au moment de la convention démocrate,
donc en juin prochain, fin août
à Denver, si on est encore dans l'impasse, ou plus exactement dans une course coude à coude, à ce moment-là, on fait également appel aux élus du parti.
Oui.
Qui sont présents à la convention et qui, en plus des délégués et des super-délégués, peuvent également voter. Les élus, c'est-à-dire les sénateurs et les représentants. Peut-être en arrivera-t-on là, après tout. Je trouve très symptomatique que, après le fameux Super Tuesday, dans lequel votaient 25 États, on se soit trouvé au coude à coude et que le Super Tuesday n'ait pas eu du tout le côté décisif qu'on lui avait prêté à l'avance. On s'est ensuite tourné vers le Texas et l'Ohio en pensant qu'il ferait la différence. Et non, voilà que nous en sommes toujours au coude à coude et qu'au fond, nous n'en savons pas beaucoup plus aujourd'hui que nous n'en savions au lendemain du Super Tuesday.
Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant du côté républicain? Ça y est, John McCain, il a remporté l'investiture de facto.
Voilà.
Lui, à votre avis, quel va être son plan? Parce qu'il ne va savoir qu'au dernier moment s'il se trouve face à Barack Obama ou Hillary Clinton. À votre avis, quelle va être sa stratégie maintenant qu'il est sûr d'avoir l'investiture? Il rencontre George Bush, ça c'est pour avoir le côté conservateur des républicains.
Il rencontre George Bush. George Bush a déjà émis des bruits favorables. Il n'a pas vraiment endossé la candidature McCain, mais c'est presque tout comme. Il a déclaré que McCain, enfin, il a déclaré des choses très positives sur M. McCain. Il sera le candidat républicain. Il va présenter son programme, mais sans pouvoir en effet ajuster le tir au plus près, faute de connaître son opposant. Il va lui falloir attendre, comme à tous les autres Américains, attendre peut-être jusqu'à fin août. Je rappelle toutefois qu'il y a encore pas mal de primaires à venir.
Oui,
Il y en a
mais la
deux qui ont.
Pennsylvanie très importante hein,
Voilà, il y en
en
a deux.
avril.
D'abord, il y a le Wyoming et le Mississippi qui ont lieu respectivement le 8 et le 11 mars. Le Wyoming est peu important parce que c'est un État très peu peuplé. Le Mississippi l'est davantage. Il y a un vote noir important qui, logiquement, devrait aller à Barack Obama. Mais il y a surtout, comme vous venez de le dire, la Pennsylvanie le 22 avril. Et la Pennsylvanie, c'est un État absolument crucial qui a
Pourquoi en
beaucoup
nombre
de.
de délégués?
Parce qu'il a beaucoup de délégués. Il a beaucoup de délégués. C'est un État extrêmement peuplé. Je vous rappelle qu'il va de l'Atlantique, Philadelphie, jusqu'aux Appalaches, Pittsburgh. Il a une population très, très composite, dans laquelle vous trouvez à la fois des cols blancs, des cols bleus, une population noire importante, une population immigrée, donc hispanique, non négligeable. C'est un État extrêmement important dans lequel, pour l'instant, Barack Obama est donné favori, notamment à cause de l'importance du vote de la communauté afro-américaine. Cela dit, le gouverneur et l'ancien gouverneur de Pennsylvanie sont très favorables à Mme Clinton et
Oui, donc.
là encore, le jeu est très ouvert.
Oui. À votre avis, est-ce que John McCain va essayer plutôt de se positionner sur l'aile droite, lui qui est plutôt considéré justement comme trop proche des démocrates?
Mais il lui faut en effet obtenir des voix des conservateurs. C'est ça. La grande faiblesse de
Oui.
John McCain, c'est qu'il est
C'est
détesté.
paradoxal, oui.
Il est détesté par une grande partie de l'électorat conservateur républicain qui le trouve trop libéral. Et effectivement, on est toujours ici très impressionné par les positions qu'il a prises sur la guerre d'Irak, sur l'envoi de renforts il y a un an, ce qu'on appelle le surge, dans lequel il a été pratiquement le seul sénateur républicain à prendre position en faveur de la décision du président Bush. On est également très impressionné par les positions qu'il a prises sur la lutte antiterroriste, sur les sujets de sécurité, qui donne l'impression qu'il est très conservateur. Mais s'il l'est en effet en politique étrangère, en politique intérieure américaine et sur les grands sujets de société, c'est un républicain plutôt libéral qui, de ce fait, attire beaucoup d'électeurs du centre et d'électeurs modérés, mais qui fait très souvent horreur à la droite
À
du
la
Parti
frange dure
républicain.
des Républicains.
Voilà.
Merci beaucoup François Bujon de l'Étang. J'appelle, vous avez été ambassadeur de France aux États-Unis. Dans un instant, je reçois quelqu'un, vous connaissez bien, Philippe Douste-Blazy, ancien ministre des Affaires étrangères. Il vient d'être nommé secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des financements innovants. Merci.